C'est une campagne qui correspond à l'état d'esprit d'une grande partie de la Turquie, mais aussi qui correspond à une grande partie de l'état d'esprit des autorités turques. Ce qu'on appelle aussi en Turquie l'état profond, c'est-à-dire qui, sous le vernis démocratique, sont les gens qui tiennent les services de sécurité et qui sont pétris de cette idéologie nationaliste.
Ce qui nous semble un peu comme un élan d'ultranationalisme, est-ce que c'est quelque chose de très ancien ou alors est-ce que ça peut être quelque chose de plus nouveau, par exemple avec l'Europe qui traite un peu comme un candidat à part la Turquie ?
Non, c'est quelque chose de très ancien. La Turquie n'a pas vraiment connu d'ère démocratique. Elle est passée du régime de Atatürk à des dictatures militaires. Et les partis principaux participent tous de ce nationalisme dur. Vous savez, un des principaux quotidiens de Turquie a comme devise « La Turquie aux Turcs ». Est-ce qu'on imagine un seul journal d'un État de l'Union européenne portant l'Italie aux Italiens, etc. C'est impensable. Or donc, pour que cela existe, ça signifie la profondeur de cette idéologie. Et c'est l'État qui impulse cette politique-là. Par exemple, si vous allez sur Internet, le site du ministère de la Culture turque a une section sur la négation du génocide arménien. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Et ça, c'est l'unicité de la Turquie et son vrai problème.
Oui, à peu près 20% d'extrême droite en Turquie. Est-ce que les politiques n'auraient pas intérêt, avec justement une volonté d'intégration dans l'Union européenne, de faire davantage d'efforts pour la démocratie ?
Je crois qu'il y a un intérêt d'une partie de la société turque à cela. Et la preuve de cela, c'est la grande manifestation qui a eu lieu lors des obsèques de Randink. Mais on voit qu'il y a deux sociétés. Lorsque l'assassin a été arrêté, et les chefs de la police qui l'ont arrêté ont fait une photo souvenir avec lui en tenant le drapeau turc devant une devise nationaliste. En Turquie, les questions démocratiques ne sont pas encore réglées. Il y a une aspiration d'une partie de la société turque à cela, mais qui n'est pas encore toute la société turque et surtout qui n'est pas la majorité de l'appareil d'État en Turquie. Les hommes politiques, il y a le parti d'Erdogan, islamiste modéré, mais il y a un parti aussi dit kémaliste. Les deux se renvoient un peu comme des miroirs, cette idéologie nationaliste, au lieu de rompre avec elle. En Turquie, cette rupture n'a jamais existé. C'est ce à quoi essayent de travailler les intellectuels dans des conditions très difficiles.
Pour mettre fin à cette campagne contre les intellectuels, est-ce que c'est du fait des politiques ? Est-ce que c'est un problème national ? Ou est-ce que, par exemple, l'Union européenne peut faire quelque chose ?
Oui, bien sûr. Et je pense que l'Europe doit maintenir une simple condition. Quiconque veut entrer en Europe doit partager les valeurs démocratiques. Donc, si cette précondition elle est posée avec fermeté, ça peut aider aussi à l'évolution interne en Turquie. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un malentendu dans la question de l'adhésion éventuelle à l'Union européenne. Une partie de la classe politique turque voit l'Europe comme l'intégration à un marché, mais sans l'adhésion à des valeurs communes. Or, ce qui a constitué l'Union européenne, ça a été d'abord des valeurs communes. Et aujourd'hui, il y a quand même trois problèmes. C'est la question de Chypre, la répression vis-à-vis des Kurdes. Et la troisième, qui est la reconnaissance du génocide arménien. À mon avis, cela, c'est une question primordiale. Parce que pour être en accord avec l'avenir, il faut déjà être en accord avec son passé. Et la Turquie, son grand problème, c'est de ne pas être en accord avec la vérité de son passé. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces dérives. Alors évidemment, quand on connaît tout ça, on est un peu moins étonné par ce qui se passe aujourd'hui, qui est très très préoccupant. C'est-à-dire que l'attaque contre les intellectuels, c'est d'abord un signe. Les régimes les pires commencent toujours par s'en prendre à la culture et aux intellectuels.